Reconversion écologique de nos territoires, une table ronde animée par Marie-Noëlle Bertrand, avec Jean-François Caron, Maxime Combe et Charles-Adrien Louis.
Voilà, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle table ronde consacrée à la transition écologique. Merci de vous installer tranquillement au centre privé pour la première partie. On va attaquer ce nouveau débat sur une question essentielle qui nous est posée. On sait depuis longtemps maintenant que c'est ici, dans nos villes, dans nos villages, dans nos départements, que très large part de la transition écologique pourra se construire et que nos territoires sont des échelons capitaux à la lutte contre le réchauffement. D'abord parce que c'est là où nous vivons, c'est là où nous travaillons, c'est là où nous avons nos habitudes, que ce soit en matière de déplacement et d'alimentation. Ensuite, parce que nos territoires, nos villes, sont directement émetteurs d'au moins 15% des gaz à effet de serre, et bien plus si on englobe toutes leurs émissions indirectes. Les territoires ont surtout à leur disposition une multitude de leviers qui leur donnent une capacité d'action formidable. Développement des mobilités douces, aménagement du territoire, rénovation thermique des bâtiments, mise en œuvre de réseaux d'énergie renouvelable ou encore intervention dans les cantines scolaires. On sait, en tout cas, le calcul nous montre, ceux du GIEC nous montre que 50 à 70% des moyens d'action contre le dérèglement climatique se trouvent au niveau local. Comment on arrive à s'en servir pour impulser une vraie transition là où on vit et là où on est? Est-ce que, mise bout à bout, toutes ces actions peuvent nous permettre d'impulser une dynamique nationale, voire internationale, d'intervenir sur les politiques publiques afin de les changer et de sortir surtout des balbutiements constatés aujourd'hui en matière d'écologie. Autre question aussi importante qu'on peut se poser ici aujourd'hui, c'est le rôle que nous avons à jouer, nous, en tant que citoyens, justement, à travers tout ce mouvement. On a des expériences et des analyses déjà bien construites là-dessus. C'est de ça dont on va débattre aujourd'hui avec les intervenants qui sont à cette table. Je vous rappelle très rapidement les règles du jeu de ces tables rondes. On va avoir un échange donc ici à cette table. Après quoi, on va vous passer la parole à la salle. On prendra 6 questions, ça dépendra du temps dont on disposera à la fin à la volée, auxquelles on répondra après à la salle. On vous invite à être bref et concis dans vos interventions, afin qu'un maximum de personnes puissent s'exprimer et surtout afin qu'on puisse avoir le temps de vous répondre. Autrement dit, il ne s'agira pas ici développer un avis comme on pourrait le faire dans un atelier de travail lambda, mais vraiment d'avoir un échange le plus interactif et être le plus précis possible, le plus concis dans les interventions. Ça vaut aussi à cette table. Nous avons un temps de parole imparti aussi pour nos intervenants. Si on veut pouvoir donner la parole à la salle et rendre cette amphi à leur dite, parce que ça s'enchaîne derrière, il va falloir se réguler dans nos interventions. Dernière information, on a la couche qui est juste là et que Marion fera passer à un moment donné dans l'Assemblée. Ça vise à collecter de l'argent pour pouvoir financer l'organisation de cet événement. Alternativa est un événement qui coûte cher à organiser, qui coûte cher à préparer. Donc voilà, c'est une manière pour tous de pouvoir contribuer à cette organisation. Je me retourne maintenant vers nos invités. Maxime Pont, vous êtes économiste, membre d'Attaque, et vous êtes auteur d'un livre paru en 2015 intitulé « Sortons de l'âge des fossiles, manifeste pour une transition ». Charles-Adrien Louis, vous dirigez le bureau d'études en développement durable BN Évolution. Vous êtes vous aussi co-auteur d'un livre qui est baptisé « Les territoires ruraux ont aussi leur rôle à jouer dans la transition énergétique les clés d'une démarche réussie. Et enfin, Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle, ancienne ville minière du Pas-de-Calais. Vous êtes président du CD de Zeug, vous en toucherez sans doute un mot dans votre intervention. C'est avec vous que démarre, Jean-François. Loos-en-Gohelle, je vous disais, votre ville du Pas-de-Calais, a dans un premier temps subi la transition énergétique plus qu'elle ne l'a choisie, comme pour toute la région Nord. La sortie du charbon s'est faite plutôt violemment et sans préparation. 40 ans ont passé depuis. Loos, aujourd'hui, est mise en avant par l'ADEME et puis au-delà, hein, dans la presse, comme un exemple de la conduite à suivre pour mettre en œuvre concrètement le développement durable. Comment s'est passé le cheminement entre la ville noire, qui était Loos il y a quelques années, et la ville verte qu'elle est devenue aujourd'hui ?
Merci, bonjour à tout le monde. Donc effectivement, sur le territoire de ma commune, c'était il y a 30 ans que le dernier puits a fermé, puits qui descendait à moins 1000 mètres, il y avait 9 puits de mine sur la commune, et les affaissements miniers font que le sol de la commune a baissé de 15 mètres. Ce qui veut dire que les ruisseaux coulent en sens inverse, ce qui veut dire qu'on a énormément de production multiple, les hommes meurent à 50 ans de silicose. J'attends que ce soit un petit mouvement de foule. Donc je reprends. Et donc, en fait, moi, j'arrive en responsabilité. Enfin, au départ, j'étais militant associatif, comme beaucoup. Puis, à un moment donné, ça bascule vers la dimension politique. C'est-à-dire que plutôt que de corriger les fuites à droite, à gauche, c'est comment j'essaie de construire un modèle alternatif. Et en fait, moi, j'arrive élu sur une situation de non-durabilité caractérisée. Des impacts économiques, sociaux, environnementaux. Et peut-être d'ailleurs qu'une partie de l'identification de Loos comme un exemple de reconversion vient du fait qu'on est dans une situation extrêmement aiguë et donc du coup c'est pas bloqué à quoi. Du coup c'est du lourd, enfin, c'est vraiment du lourd. Et d'ailleurs c'est pas un hasard si le Front National a fait dans les communes autour de Loos 72% en moyenne lors de la récente présidentielle, tellement il y a une désespérance. Et alors à Loos-en-Gohelle, on a fait un excellent score, hein, puisque Le Pen n'a fait que 57%. Donc, c'est de loin le meilleur score de tout le bassin minier, mais c'est pour dire que c'est un territoire qui peut sombrer quand on a des impacts aussi. Bon. Comment on a remonté la pente? Alors c'est assez frappant, on n'avait pas d'idée de ce qu'on allait devenir, puisque ce qui nous a constitué s'est arrêté, le charbon, on était là que pour faire du charbon. Et en fait, c'est parti par la question culturelle. Et d'ailleurs, je suis très intéressé à voir aussi la question culturelle basque, comment elle est le ferment. Mais c'est vrai, dans des tas d'endroits, il ne faut pas laisser les questions d'identité au Front National. Si l'identité est prise de manière intelligente et dans une logique d'ouverture au monde, au contraire, elle est extrêmement féconde sur les questions de constitution de communauté. Et c'est absolument fondamental d'avoir des communautés agissantes. Un des sujets de la période actuelle. Donc on a démarré par une reprise culturelle, c'est quoi notre histoire? Il faut dire que quand on est du bassin minier et du Nord en général, on s'excuse d'exister, puisque les Parisiens mettent dans les tribunes du Parc des Princes, certains Parisiens, tous, nordistes égale pédophile, consanguin, alcoolique. Donc c'est compliqué, avec certains discours de médias, etc., d'avoir des éléments de confiance en soi qui permettent de relever la tête. Et je pense que c'est un des sujets sur lesquels on est, c'est quoi les conditions qui nous permettent un passage à l'acte vers une transition, un changement de vie. Donc reprise par la culture, par exemple des sons en lumière, festivals de culture, etc. Puis révision de notre plan d'occupation des sols, et j'ai ça en responsabilité, et donc on commence par un an et demi de travail sur qu'est-ce qu'on veut faire de notre ville. Puisqu'on n'a plus véritablement d'avenir. En plus, vous savez, quand on est mineur, globalement nous demander d'avoir des bras, enfin, nos parents, nos grands-parents, et on parle pas trois langues, on n'est pas connecté, agile, enfin, tous ces termes qu'on a aujourd'hui, on n'est pas start-up, oui, voilà, par exemple. Et donc pour nous, la vie va être compliquée, quoi, au 21e siècle, vous voyez. Bon, donc, le plan d'occupation des sols est une façon de se projeter, de se qualifier, d'écouter des experts, de dialoguer. Bon, j'ai pas le temps de vous décrire tout ça, et de reprendre prise, finalement, sur qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. On en sort un certain nombre d'expérimentations. Par exemple, l'eau est tellement pourrie, elle est à 100 mg de nitrate, hein, l'eau à Los Angeles, que la préservation d'eau devient un impératif collectif et qu'on a généralisé tous les systèmes de récupération d'eau. Et ça fait plus de 15 ans qu'on ne consomme plus du tout d'eau potable pour les besoins de la vie, tout vient de nos cuves qui récupèrent tout. Les mineurs avaient le charbon gratuit, la mine s'arrête, les maisons des mines, c'est des passoires, parce que le charbon est gratuit, mais sauf que quand on ne l'a plus, le charbon, c'est compliqué. Et donc, la question de la réhabilitation thermique devient un impératif, et aujourd'hui, 10% du parc de logement, ce qui est beaucoup, c'est très long à rénover un parc de logement, hein. 10% du parc de logement a bénéficié d'éco-construction, éco-réhabilitation, et on a maintenant des centaines d'habitants, de familles, qui payent moins de 150 euros de chauffage par an. Je rappelle qu'on est dans le Nord, et donc c'est la banquise. Les ours arrivent en hiver. C'est évidemment pas vrai, mais enfin, il fait quand même un peu plus froid qu'ici, par exemple. Bon. Donc, et d'ailleurs, c'est un élément extrêmement fondamental qu'on verra dans la deuxième partie de la table ronde, c'est que les gens ne sont pas vus par les questions environnementales. Les gens sont venus par les questions sociales, économiques, la diversité qu'ils avaient, etc., etc. Bon, de ces expérimentations, enfin, on a fait 15 km de train, enfin, on a fait plein de choses, je n'ai pas le temps de détailler, mais par exemple, on a eu la première église solaire de France, on a eu des dispositifs citoyens autour de ça, mes collègues vont en parler, donc je n'en parle pas, est venu le sujet de la généralisation, donc de la durabilité, ce qui, en fait, renvoie à des questions de transversalité dans les choix, donc de mode de management complètement différent, donc d'installation des processus de coopération et d'écoute et de co-construction des décisions, qui à la fois font travailler autrement l'équipe municipale, par exemple, j'ai dû changer de DGS, qui était un DGS gestionnaire, qui n'était pas un DGS mode projet, parce que rentrer dans le projet une innovation, c'est une désobéissance, DGS, c'est directeur général des services, pardon. L'innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Donc, comment construire dans la désobéissance et avec des systèmes vertueux? La construction avec les habitants est absolument centrale depuis le premier jour. C'est la question de l'empowerment, retrouver du pouvoir d'agir. J'ai pas le temps de détailler, mais on y viendra peut-être un peu. Et du coup, on a eu des résultats un peu dans tous les registres, et notamment des résultats électoraux. Donc, comme nous n'avons pas forcément le moral dans cette période, juste vous dire qu'à Los Angeles, les gens ont voté à 82,1% pour Notre-Dame, ce qui était le plus gros score du Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le développement durable appliqué n'est pas répulsif. Bien sûr, il y a des critères d'adhésion au maire, ça, oui, notre mairie est bien. Bon, ben ouais, il y a plein d'endroits où le maire est bien. Hein. Enfin, je dis ça, je m'auto-attribue. Mais c'est pour sortir les questions individuelles. Pour faire le plus gros score du Nord-Pas-de-Calais, c'est que le développement durable n'est pas répulsif. Je vous demande de retenir ça parce que ça veut dire que c'est possible, quoi. C'est atteignable avec des choses concrètes, etc. Pour la petite histoire, en 2014, on était seuls. Vu que depuis la Révolution française, ça n'est jamais arrivé. Donc, la prochaine fois, on a une liste FN, parce que pour Le Pen, nous sommes une énorme épine dans son pied, puisqu'en fait, il y a un combat culturel. Est-ce que l'avenir, c'est la réaction, mode Hélène Beaumont, qui a 12 km, ou c'est le Sangoël, mode écologique? C'est un sujet. Bon, et donc, pour terminer, tout ça a beaucoup évolué. On a un comité scientifique, plein de. Hier, sur Planète, il y avait encore un 50 minutes sur Los Angeles. On a eu plein de médias, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec ces chercheurs, mais aussi, aux surprises, le Premier ministre demande des évaluations sur ce qui se passe à Los avec France Stratégie, la Caisse des dépôts, le CGET, le CGDD. On a travaillé sur la question du code source. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Bon, et quand je dis on, c'est par point de vue d'experts, etc. Et si vous voulez, j'en parlerai après parce que j'ai atteint mon temps. Ouais. Alors, une minute sur le code source de toutes ces analyses, hein, de multicritères de beaucoup d'acteurs, et qu'on travaille dans un atelier de ce qu'on appelle les villes pères en France qui font système, en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Beaucoup d'endroits où il y a des villes énergie positive, hautement démocratique, mais l'un des enjeux, c'est à quel moment ça fait système. Et notamment dans des rencontres comme Alternativa, c'est extrêmement important de regarder à quelles conditions ça peut faire système. Donc, ces conditions, c'est 1, s'appuyer sur le socle culturel et penser en trajectoire. Un des gros problèmes, c'est les politiques qui sont dans le ici et maintenant. Et remettre ça dans une logique de trajectoire est une façon de... Alors, je vais vous déstabiliser, mais par exemple, si je dis, je l'ai dit à une époque aux agriculteurs à Fénécéa de ma commune, que c'est quand même vraiment des gros cons qui détruisent la planète et qui nous polluent la vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent les poings et ils me foutent sur la gueule. C'est pas comme ça qu'on y arrive. Aujourd'hui, il y a un des mecs de la FNSEA qui devient le pilier du bio, et c'est tout à fait étonnant, et du coup, ça bascule. Il y a plein de leçons à ressortir de ça. Donc, cette logique en trajectoire qui consiste à ne pas renier ce qui nous a amené là. Moi, mes parents, mes grands-parents ont fait du charbon, donc ils sont la cause du dérèglement climatique, si je leur crache à la figure. On ne peut pas avoir de logique de conduite de changement. En fait, ce qui est intéressant, c'est la conduite de changement. C'est ça qui est intéressant à décrypter. Donc, socle de la pensée en trajectoire, accepter qu'il faut des leaderships d'initialisation, ça passe toujours par des humains. C'est un sujet compliqué parce que nous, on aime bien parler collectif, machin, mais non. Quels que soient les sujets, à un moment donné, bon, l'accepter, ça veut dire comment le gérer, cette question-là. Puis, 4 piliers. 1, implication des habitants. Moi, je déteste la démocratie participative parce que des participation sans responsabilisation égale piège à coup. C'est-à-dire que les gens sont dans une consommation de l'action publique, je paye mes impôts, donc j'ai droit, et ça génère aucun effet d'implication. Donc, implication habitante. 2, pensée systémique, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, essayer d'analyser les impacts des mécanismes de coopération d'intelligence collective au cœur de toutes les décisions. 3, le management par l'étoile et les cailloux blancs, management par le rêve et le désir, la vie durable qui se relève de la mine, mais des petits cailloux blancs, le toit de l'église est un petit caillou blanc qui mène à l'étoile. Et 4, la culture d'innovation qui suppose des conditions de confiance pour désobéir à la pensée unique. Ça donne des résultats analytiques, qui ont hâte, mètres carrés, des trucs comme ça, et ça donne des résultats globaux, confiance, changement d'image, estime de soi.
Oui, je disais, vous êtes dirigé un bureau d'études en développement durable. Quelles sont les inquiétudes que manifestent les collectivités, les acteurs territoriaux qui s'adressent à vous, et qu'est-ce que ça traduit des obstacles auxquels et des freins auxquels ils sont confrontés quand ils cherchent à réfléchir ou à mettre en œuvre le développement durable?
Merci. Alors, vaste sujet. Et alors je vais commencer par la fin. La conclusion, en fait, elle a été dit à ma droite. Ce qu'il faut faire, c'est tout ce qu'a fait le Sangouet. Alors, quelles sont les inquiétudes, les craintes ou les sujets qui sont souvent évoqués? Il y en a plusieurs. Et moi, je vais prendre le prisme plutôt des territoires ruraux, des territoires qui ne sont pas les grandes métropoles qui ont plein de moyens, mais plutôt des personnes qui subissent ou qui ont l'impression de subir. Le premier point, la première inquiétude, c'est le sentiment d'un déclin du territoire et d'une impuissance par rapport à ça. Alors déclin parce que on vit essentiellement de l'agriculture, que les agriculteurs sont vieillissants, que la nouvelle génération tarde à arriver sur le territoire, qu'on tarde à lui faire une place. Déclin parce qu'on a aussi un solde migratoire négatif, on a beaucoup de territoires qui perdent de la population, et qui se retrouvent du coup à devenir des grandes zones où ne vivent que des personnes pré-retraitées ou à la retraite, et en plus des personnes qui sont plutôt dans une situation de précarité, on va dire, et pas de retraite à zéro. Donc ça, c'est un premier constat. Se pose la question de comment est-ce qu'on fait finalement pour redonner un souffle à notre territoire. Et pour certains, en fait, ça va être une approche. C'est l'approche de voir la transition écologique comme finalement la manière de recréer un projet de territoire là où on a perdu cette volonté. Donc créer un projet de territoire, en fait, c'est ce qui était dit, c'est le fait d'avoir ces étoiles, savoir comment la vision se donne et comment est-ce qu'on va se faire, comment on va faire ensuite pour y aller. Et puis quand on parle de ça, on se rend compte que finalement, le territoire, il a plein de ressources. Alors il a des ressources culturelles, hein, comme on l'a évoqué, il y a un passé qui fait que le territoire est là. Et puis il y a finalement tout son sol qui est là, qui est encore présent. Et comment faire pour repenser son utilisation du sol, repenser ses modèles agricoles, repenser la manière dont on va pouvoir développer les énergies renouvelables et citoyennes. On a fait y avoir un accident de vidéo. Donc voilà, premier point, c'est celui-là, c'est celui de la volonté de se réapproprier, de lutter contre le déclin qui semble inéluctable. Le deuxième lien, alors qui n'est pas forcément une inquiétude perçue, mais très rapidement qui se fait comprendre, c'est la question de la facture énergétique. La facture énergétique, c'est le fait que aujourd'hui vous avez beaucoup d'habitants qui payent un montant très important dans l'énergie. Et l'énergie, c'est l'énergie pour se chauffer, c'est son électricité, c'est l'énergie pour se déplacer aussi. Les coûts d'essence que l'on va mettre dans sa voiture individuelle, et qui fait que vous avez à peu près 10% de la population qui est en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qui consacre plus de 10% de ses revenus à ces éléments, à l'énergie. Donc, on ne le perçoit pas tout de suite, enfin, c'est pas une inquiétude qui est ressortie, mais nous, quand on parle de ces chiffres, quand on leur dit combien de millions ça fait qui sont dépensés par les citoyens du territoire, déjà ça permet de reconnecter les problématiques sociales qui sont souvent fortement présentes sur le territoire. Et en fait, où va cet argent? Et l'argent que l'on utilise quand vous achetez de l'essence sur le territoire, vous avez quelques retombées économiques qui sont dans la plupart du temps des multinationales, hein, la compagnie chez qui vous avez fait le plein. Et puis la plupart des retombées économiques, elles vont aller dans des pays du Golfe, dans des pays exportateurs de pétrole. Donc aucune retombée sur le territoire et donc rien qui contribue au développement du territoire. Quand on se fournit en énergie, la plupart du temps, c'est un fournisseur national, c'est pareil, on est dans l'argent qui est mis dans une société nationale, avec des retombées fiscales qui seront rarement directement sur le territoire. Et donc, c'est pas du tout le même enjeu que le fait de se réapproprier son énergie locale par des projets d'énergie citoyenne. Je pense qu'on reviendra sur ce point après. Et puis, le troisième point, c'est finalement le fait que il y a une difficulté à faire ensemble. Et aujourd'hui, les premiers échanges, on va dire, entre les citoyens sur un territoire sont des conflits. Et c'est des conflits qui se cristallisent. Et un des sujets qui témoigne beaucoup de ça, c'est dès qu'une municipalité souhaite mettre un projet éolien sur son territoire. Alors quand on est écolo, c'est bien, on prend les éoliennes partout, mais dès qu'on rentre plus localement sur le territoire, on se rend compte qu'il y a des contraintes qui fait que c'est pas si simple d'installer une éolienne. Et vous êtes à peu près sûr que sur un territoire, si vous n'avez pas réfléchi les choses avec les habitants, vous lancez une première étude sur l'éolien, paf, vous avez un collectif anti-éolien qui se crée. Avec un peu de chance, vous avez aussi un collectif pro-énergie renouvelable qui va se créer et vous arrivez à cristalliser une situation où dès qu'on évoque le mot éolien, ça part en guerre civile au conseil municipal et donc du coup on n'avance plus du tout sur la question. Et donc c'est l'inquiétude, c'est de se dire que dès qu'on va tenter quelque chose de nouveau finalement, dès qu'on va vouloir prendre le problème, on va se retrouver avec de la résistance, de la réactance, des personnes qui vont s'opposer à ce projet-là. Et donc ça amène la question de comment est-ce que l'on fait pour faire en sorte que les projets soient faits ensemble, soient réappropriés par tous les acteurs du territoire. D'autres inquiétudes qui sont soulevées très souvent, c'est la question de l'agriculteur pollueur. Donc effectivement, le discours de FNSEA égale pollueur. En fait, on braque les agriculteurs tout de suite et puis on oublie que s'ils sont là aussi, c'est qu'à un moment donné, ils ont eu un mandat, hein, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'était de nourrir la planète. Et on leur a dit de faire avec les techniques qu'on leur a appris. Et aujourd'hui, ils ont du mal à imaginer comment changer de façon de faire. Donc, c'est souvent ça la première crainte. On nous dit, ouais, mais les agriculteurs, on est toujours vu comme les émetteurs de gaz à effet de serre. Alors, émetteurs de gaz à effet de serre par les techniques agricoles qui sont intenses en, en engrais chimiques, mais aussi vu comme pollueur par l'élevage, l'élevage qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, hein, pas du CO2 mais d'autres gaz à effet de serre, et donc toujours pointé du doigt. Et en fait, on ne construit pas ensemble si on commence par dire ben, eux c'est les méchants et nous on est les gentils, et du coup il va falloir qu'on leur explique comment changer les choses. Et donc, comment sortir de là? C'est déjà se rappeler que l'agriculture, ça a des problèmes, mais ça apporte des solutions, un certain nombre de solutions. Et notamment, on parle rarement du stockage carbone qui est capable avec les sols agricoles, mais qui nécessite de rechanger, de repenser les pratiques agricoles. Aujourd'hui, quand vous faites du non-labour, vous stockez, ou en tout cas vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de déstockage de carbone sur le sol. Le problème, c'est que le non-labour, la façon simple de faire, c'est l'électrolyse. Donc du coup, on se retrouve dans une solution où on a un choix à faire entre changement climatique et problèmes environnementaux simples. Mais ça c'est le discours simple, mais derrière, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a tout un tas de techniques agricoles qui permettent de stocker plus de carbone tout en ayant des impacts moindres sur l'environnement. Mais ça se construit ensemble et ça se construit dans le dialogue. Et donc c'est ça la crise, de ne pas braquer les gens et de ne pas faire en sorte qu'il y ait deux camps qui s'opposent sur les territoires.
Économiste, les territoires, on va commencer à en parler, hein, mais sont un peu soumis à des contraintes nationales, voire internationales, des contraintes budgétaires, des contraintes politiques. Est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'ils ont les moyens, ces territoires, de contourner ces contraintes, voire de les transformer?
Bonjour tout le monde. Effectivement, je suis économiste et je vais être l'oiseau de mauvaise augure là, dans la discussion, pour essayer de pointer quelques-unes des limites à l'action territoriale. Née d'un certain nombre de traités internationaux et de transcriptions dans les directives européennes ou lois françaises qui limitent considérablement des initiatives qui devraient être généralisées. Je vais prendre un exemple. Mais pour ne pas apparaître complètement hors sol et pas ancré sur le territoire comme les deux conférencier. Je ne suis pas simplement économiste à Paris, à Attac et faire des bouquins. Je suis engagé dans une bataille contre l'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne, et donc extrêmement confronté à cette problématique-là de la transition sur les territoires qui peut aussi mettre du conflit. C'est-à-dire qu'à travers un conflit comme un conflit contre les grands projets inutiles, il y a également des pratiques et des initiatives de transition territoriale qui peuvent être extrêmement fécondes. Alors, on n'en est pas à Los Angeles, à ce niveau-là, mais il y a des choses qui peuvent naître également du conflit, et donc, du coup, il faut savoir peut-être jouer à un moment donné de la concertation, du travail avec les habitants, mais que le conflit n'en soit pas nécessairement exclu. Il y a des moments d'articulation peut-être intenses. Je vais vous parler d'une collectivité qui n'est pas française, qui est au Canada, qui est la province de l'Ontario, et qui a une similitude avec Los Angeles, parce que c'était une province qui dépendait beaucoup de l'exploitation et de l'utilisation du charbon pour son système électrique. Et pour des raisons qui ne sont pas nécessairement premières, de prime abord, des raisons de lutte contre les dérèglements climatiques, l'Ontario a décidé de fermer progressivement ses centrales à charbon et d'essayer de développer un mix énergétique électrique, un mix électrique qui s'appuie beaucoup plus sur les énergies renouvelables. Je vous passe les détails, c'est pas l'initiative et l'expérience la plus aboutie, la plus intéressante et tout ça, mais ce qui va se passer à travers ce dispositif-là est très important parce que ça montre les limites de l'action de collectivités qui sont là des provinces, donc limites des États en mesure de porter des politiques alternatives. Et l'Ontario, confronté donc du coup à la fermeture de ses centrales et donc au fait de mettre des gens au chômage, ou en tout cas de faire disparaître un certain nombre d'emplois, dit, nous n'allons pas simplement mettre en œuvre une transition énergétique et le développement du photovoltaïque et de l'éolien, nous allons essayer de conditionner un soutien au photovoltaïque et à l'éolien quand les entreprises utiliseront une majorité de compétences locales et une majorité ou une part importante de panneaux solaires et d'éléments nécessaires à l'éolien qui seront produits localement dans la province ou au Canada. Il se trouve que c'est un dispositif qui a bien fonctionné les deux premières années. Ça a permis de développer le photovoltaïque et l'éolien, ça a permis de créer des emplois. Simplement, ce dispositif-là qui vise à dire « je soutiens les entreprises qui privilégient l'emploi local et les matériaux locaux » est un dispositif qui est contradictoire aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Parce que dans ce cas-là, vous créez une discrimination entre les entreprises locales et les multinationales étrangères qui, effectivement, ne sont pas dans la même capacité d'utiliser de la main-d'œuvre locale et des ressources locales. Il se trouve que ces multinationales-là, notamment au Japon et en Europe, ont demandé au Japon et à l'Union européenne de mener ce cas devant ce qu'on appelle l'organisme des règlements des différends de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OMC. Donc, c'est au sein de l'OMC, il y a un organisme, une cour de justice, si vous voulez, qui traite des cas lorsque une politique publique a été prise et qu'elle est contraire aux règles du commerce international que les États ont eux-mêmes validées. Et donc l'Union européenne et le Japon ont attaqué le Canada pour la disposition prise par la province de l'Ontario comme contraire aux règles du commerce international. Le Japon et l'Union européenne ont gagné. L'Ontario a dû démanteler son dispositif de soutien au photovoltaïque et à l'éolien. Et ils ont dû, du coup, instaurer un dispositif de soutien qui ne discrimine plus entre les acteurs locaux et les acteurs internationaux, entre, en gros, les multinationales et les entreprises locales. Et ceci, vous voyez bien la problématique dans laquelle on se trouve, parce qu'effectivement, du point de vue du réchauffement climatique, que le panneau solaire vienne de l'extérieur de la province ou de l'intérieur, si on considère comme les coûts de transport et les émissions liées au transport comme marginales, ce qu'elles ne sont pas tout à fait, mais quand même, globalement, oui, ben effectivement, du point de vue du réchauffement climatique, ça n'est pas ça l'important. C'est pas l'important, c'est pas de savoir d'où ça vient. Par contre, du point de vue de la dynamique d'appropriation et d'implication de la population et d'acceptation sociale, comme on nous dit dans les institutions internationales, vous voyez bien la différence. La différence, c'est qu'on a dit aux gens de l'Ontario, de cette province, on leur a dit, ben, on va mettre en place un dispositif, on va poursuivre la politique de développement des énergies renouvelables, mais bon, que vous y gagnez ou que vous y perdiez, on s'en fout, parce que les règles du commerce international ne sont pas faites pour vous. Les règles du commerce international, elles sont faites pour privilégier les intérêts des multinationales qui vendent des panneaux photovoltaïques ou de l'éolien. Et là, vous voyez bien qu'on a une problématique assez forte. Hier, j'étais donc dans la conférence avec Françoise Coutan qui nous expliquait qu'il était dommage peut-être qu'ici, il n'y ait pas assez d'éoliennes en Aquitaine. Mais ce serait d'autant plus facile à développer qu'éventuellement, on est une véritable industrie en France de développement des photovoltaïques et de l'éolien. Et ceci est valable pas simplement sur les énergies renouvelables, c'est valable sur l'efficacité énergétique, c'est valable en fait pour tous les marchés publics, si on généralise. Et les marchés publics en France, c'est très important. C'est difficile à comptabiliser, mais en général, on considère que c'est une grosse partie du PIB national qui passe à travers les marchés publics. Et cette problématique sur les énergies renouvelables, vous l'avez également sur le bio et le local dans les cantines. Il y a des collectivités territoriales qui ont réussi, malgré les marchés publics tels qu'ils existent, à instaurer du bio et du local à 100% dans leur cantine scolaire ou dans leur restauration collective. Mais c'était la croix et la bannière pour y arriver. Parce que les marchés publics empêchent normalement que vous exigez dans votre... Alors je vais faire caricatural, c'est un peu plus compliqué que ça, certaines collectivités y sont arrivées, mais globalement, c'est extrêmement difficile pour une collectivité territoriale de dire « je veux du bio et du local dans la passation du marché public pour la restauration collective ». Et avec des cas complètement aberrants. J'ai eu l'occasion de discuter avec la mairie de Grenoble, je ne sais pas ce qu'ils ont décidé au final, mais par exemple, pour s'assurer que vos gamins, enfin là, peut-être pas ceux de Grenoblois dans la salle, mais que les gamins grenoblois mangent du yaourt local bio, ils ont instauré dans la passation de marché public qu'il fallait que les enfants puissent visiter l'usine dans laquelle c'était produit. Ce qui est très intelligent et très futé, parce qu'effectivement, donc du coup, l'usine ou l'entreprise qui vient de je ne sais où, ben, elle va avoir du mal à affréter un train SNCF pour amener tous les gamins et visiter le truc. Mais vous voyez les réflexions dans lesquelles on est obligé d'entrer. On est là dans des il faut avoir une volonté de faire pour aller jusque là et obtenir et mettre en place des politiques de ce type. Donc globalement, nous faisons face à travers ces accords internationaux, que sont donc les accords de libre-échange et d'investissement qui ont été traduits dans les directives européennes quand ils viennent de l'OMC et qui sont imposés à chacun des États quand ce sont des accords de libre-échange entre l'Union européenne, le Canada ou le Japon, empêchent, limitent, réduisent considérablement la capacité d'action et d'initiative des collectivités territoriales pour mener à bien une transition écologique et sociale. Et donc je dis cela pas pour dire que ce qui est fait à Los Angeles n'est pas suffisant, pas pour dire que ce qui a été fait à Los Angeles est exceptionnel et ne peut pas être reproduit. Si, ça peut être reproduit. Mais qu'à un moment donné, il faut qu'on soit capable, nous, individuellement et collectivement, d'être en mesure de dire ce qui se passe à Los Angeles, ce que fait Charles-Adrien, ce que font certains d'entre nous tous dans nos territoires pour développer la transition, c'est formidable, mais il faut également à un moment donné qu'il y ait des ruptures dans la façon dont sont organisées les règles des marchés publics et les règles qui organisent l'économie telle qu'elle fonctionne, parce qu'elles sont aujourd'hui au bénéfice des intérêts des multinationales et pas au bénéfice des intérêts des populations, et notamment pas de prime abord capable intrinsèquement de faciliter la relocalisation des activités et donc l'emploi et la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est bien ça dont on a besoin. Et donc, on a à réarticuler ces différents champs d'intervention. Et donc, en gros, de Los Angeles à la bataille contre l'OMC, un continuum de pratique, un continuum d'engagement, et soyons capables de mener tout ça de front.
Jean-François, je voulais vous relancer sur la question de l'emploi et du lien, en fait, dans quelle mesure la transition que vous avez accomplie à l'OS a été aussi un levier pour les luttes sociales et l'emploi. Vous vouliez aussi réagir sur cette question des commandes publiques, donc dans un temps bref.
Oui, une minute, je partage hein, qu'on est dans un cadre qui n'est pas celui de l'aide au local et à l'écologique, mais plutôt la mondialisation dans son versant catastrophique. Donc je partage complètement ce que tu as dit. Ceci dit, nous auto-limitons. Je vais prendre trois exemples. Moi, pour développer le bio dans mon territoire, j'exige dans l'appel d'offres qu'il y ait un passage en légumerie pour que les légumes de l'os puissent être servis aux enfants de l'os. Et Sodexo, Happy et tout, ça ne va pas répondre parce qu'ils n'ont pas de légumerie, parce qu'ils achètent de la bouffe industrielle. Et donc, de fait, par l'appel d'offres, on fait apparaître des gens qui acceptent de jouer le jeu du légume local. Premier exemple. Deuxième exemple, tous nos appels d'offres sont en économie circulaire, nos banques sont d'origine recyclée, et ça marche du feu de Dieu, et les habitants sont très fiers de dire que nous, on met des banques recyclées, monsieur, ce n'est pas des banques à base de pétrole, ils vont expliquer aux journalistes. Donc c'est possible. Et troisièmement, d'une manière générale, la clause carbone peut être introduite dans tous les marchés. C'est-à-dire que quand vous mettez 100 points sur le choix des entreprises, vous pouvez par exemple mettre 20 points sur la clause carbone, il y a 30 points sur le prix, etc. Alors, c'est compliqué. Le plus gros problème, c'est les services financiers, les services juridiques, qui disent, mais monsieur le maire, moi je ne veux pas vous envoyer en prison. Alors moi, je suis d'accord, pour ne pas aller en prison. Et donc, je vous sécurise. Et donc, on retombe dans des questions de pensée unique. C'est-à-dire qu'il y a des espaces, mais ils ne sont pas suffisamment utilisés, ce qui n'empêche pas, je partage complètement tout ce que tu as dit. Mais il ne faut pas considérer qu'on ne puisse pas le contourner. Quoi. Et ça mériterait. Non, mais je sais ce que tu as dit d'ailleurs. Mais je le dis là parce que sinon, nous-mêmes, on s'auto-limite. Chaque maire peut introduire des clauses. Après, il faut écouter, comme tu as dit. Il faut écouter et volontariste malgré les services juridiques.
Intervention peut-être sur cette question de l'emploi et de support pour les luttes sociales en une minute.
D'accord, oui. Donc oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que la population de Saint-Goël, ça a été dit dans une rencontre ce matin, quand on a un problème de fin de mois, on a du mal à s'intéresser à la fin du mois. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et nous, on a des gens vachement pauvres. Et donc, du coup, le fait qu'on le prenne par la question de l'alimentation, et que c'est un truc que vous connaissez tous, hein, mais les paniers de proximité sont pas chers, hein, donc permettent d'avoir du niveau local bio. Le fait que, du coup, ça déclenche, on est passé à plus de 10% de notre surface agricole utile, on a 800 hectares, hein, c'est beaucoup. En bio, c'est parce que des marchés apparaissent pour les agriculteurs, donc des nouveaux emplois. L'an dernier, l'endivier qui fait de l'endive bio est venu me voir en disant que c'est la première fois que ça m'arrive de toute mon histoire. J'ai besoin de 8 emplois, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à trouver 8 emplois pour travailler dans mon endivier? C'est des trucs, c'est lui, on va retrouver ça. Bon. Sur les questions d'énergie, même propos, la précarité énergétique globalement ici, on n'est pas. Mais moi, je peux vous citer des centaines et des centaines d'habitants qui, par exemple, ne chauffent plus qu'une pièce. Donc, quand on arrive avec des gens qui payent 150 euros de chauffage et qu'à l'école, ils sont à côté de ceux qui sont dans une maison chauffage électrique il y a 30 ans et qui payent 2000 euros, il n'y a pas besoin de grands baratins et ainsi de suite. Donc, il y a des effets à la fois sur des effets pouvoir d'achat par des choses qu'on peut acheter moins cher et des effets création d'emplois qui, quand je disais systémique,
c'est le plus gros moteur de la transformation de l'os. En plus, il y a un super environnement. En plus. Mais d'abord, la motivation des gens largués, c'est la survie. Hein. Donc, alors, c'est pas largué partout comme chez nous, mais c'est quand même un puissant moteur.
Merci. Dans le livre que vous avez co-rédigé, donc dans ce livre, vous proposez des clés pour pouvoir réussir sa transition. Cette question-là, cette question de la prise en compte des difficultés sociales, cette question plus largement de la participation des citoyens, vous avez commencé à y venir tout à l'heure, mais est-ce que ça fait partie justement des clés indispensables pour réussir sa transition? Qu'est-ce que ça implique sur le coup?
Oui, c'est une clé indispensable pour réussir sa transition. Il y en a plusieurs, mais pour en lister juste quelques-unes, la première, après j'arrive là-dessus, c'est aussi l'exemplarité. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à amener les gens dans notre dynamique si on ne montre pas l'exemple par nous-mêmes. Et au niveau d'une collectivité, en fait, sans arrêt, je vois des prises de conscience au sein des services de la collectivité, au sein des élus, de se dire « Ah oui, mais vous nous dites de faire du renouvelable et de demander aux habitants de mettre des panneaux solaires sur leur toit. » Mais en fait, nous, on vient de lancer un projet de piscine, ou de mairie, ou de je ne sais pas quoi, et on n'a pas pensé à cette question. Et forcément, si on montre pas ça, c'est je crois, du pierre blanche ou des cailloux blancs, voilà, les cailloux blancs qui mènent à l'étoile. C'est indispensable, c'est de montrer le chemin. On a besoin, alors on disait, d'acteurs, de citoyens qui montrent la voie. Il faut que l'exemplarité elle vienne évidemment de la municipalité aussi, ou en tout cas des acteurs publics. Et le deuxième, c'est effectivement le fait d'impliquer les citoyens. C'est un formidable levier. Et d'ailleurs, c'est une grosse problématique que l'on ressent. Aujourd'hui, je vais peut-être vous choquer, mais le grand frein pour moi à la transition énergétique sur les territoires, c'est l'implication des citoyens. On a des élus qui ont compris l'urgence climatique, qui ont envie d'agir. Et dès qu'ils vont proposer de venir en discuter, de venir en parler, ils vont se retrouver face à pas grand monde. Et la plupart des gens qui vont venir sont des gens qui veulent râler. Qui veulent râler parce que finalement ils ne veulent pas de l'éolienne chez eux, parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle du vélo, parce qu'une voiture c'est quand même beaucoup plus confortable, etc. Et donc il manque cette prise de conscience, elle existe, mais cette mobilisation des citoyens qui viennent dire « mais si, nous on a compris le problème et on vous soutient et on a envie que vous fassiez ça ». Donc comment est-ce qu'on fait pour les amener là? Ça c'est tout un sujet, hein, comment on fait pour faire ensemble. Mais en quoi c'est un levier? Ça c'est quelque chose que je peux répondre toujours à travers mon exemple de l'éolien parce qu'il est assez bien parlant. Installer une éolienne, en fait, très souvent, quand on creuse la problématique, on se rend compte que les freins principaux ne sont pas ceux qu'on imaginait au premier abord. Ce qu'on va nous dire au départ, c'est « oui, mais c'est moche ». Bon, alors, ok, une éolienne, ça peut être jugé comme n'étant pas l'élément le plus joli du paysage, mais enfin, on a quand même accepté des lignes à haute tension qui sont pas beaucoup plus jolies. On a parfois des usines qui font 30-40 mètres de haut, on a des mâts de télécommunications et autres, donc c'est pas le seul sujet sur le paysage. Le deuxième, c'est mais ça va avoir un impact négatif sur mon habitat. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas éluder, c'est qu'installer une éolienne quelque part, il y a une étude qui a été faite en Angleterre, et en gros, si on a une éolienne à moins de 2 km de sa maison, elle perd 10% de sa valeur. Donc quand on a déjà pas grand bien, et que ce qu'on a peut se retrouver dégradé financièrement par l'installation d'une éolienne, eh ben, ça pose une vraie question. Mais cette question, et du coup, on arrive sur la question économique, en fait, elle se retourne quand on creuse un peu plus et qu'on se rend compte que finalement un frein caché qui n'est pas forcément dit, mais c'est oui, mais j'en ai marre de laisser des grandes multinationales profiter de mon territoire et de se faire des rentrées capitalistiques dessus. Et en fait, c'est là où il y a le levier citoyen. C'est que ces énergies renouvelables, alors là je prends l'exemple des éoliennes, mais on en a aussi sur le solaire ou sur d'autres choses, ça doit être des projets qui soient réappropriés par les citoyens. Et quand je prends souvent l'exemple des grands-mères, parce que je vous ai dit que dans les territoires ruraux, souvent c'est des populations un peu plus vieillissantes, qu'une grand-mère ou qu'un grand-père puisse dire ben là, les petites économies que j'avais, je les investis là-dedans, c'est concret, c'est juste en bas de chez moi, pas en bas de chez moi, à 2 km ou à 3 km, et je l'ai fait pour mes enfants, plutôt que de leur laisser un peu d'argent sur un compte en banque ou une maison qui devient insalubre, et ben je leur ai laissé un avenir souhaitable, un avenir maîtrisable, avec mes petites économies dans des énergies renouvelables. Tout de suite, ça fait du sens. Et tout de suite, ça fait du sens, et les acteurs sont beaucoup plus enclins à accepter ces projets-là, à les développer, etc. Là, j'ai pris l'exemple de l'éolienne, mais on a aussi d'autres sujets, ça s'appelle des centrales villageoises, par exemple, qui sont des grappes de panneaux solaires ou photovoltaïques qui sont gérées par des habitants du territoire, dans lesquels les collectivités sont aussi souvent très inspirées de co-investir avec eux et de les laisser apporter ces sujets-là. Mais c'est la réappropriation citoyenne, et c'est ça qui fait le plus de sens. Je vais terminer par juste un sujet, parce que tout à l'heure, mon co-intervenant parlait de implication sans responsabilisation égale piège à con. Participation sans responsabilisation égale piège à con. Ben, là, je pense que c'est un sujet où on responsabilise le citoyen. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est qu'on on le ressent très souvent. Dès qu'on veut parler, dès qu'on veut faire de la participation, ça devient le bureau des pleurs, où chacun va parler de ses problèmes. Mais alors que dès que l'on commence à se dire comment est-ce qu'on va faire ensemble, comment est-ce qu'on peut s'impliquer ensemble, donc quelque chose qu'on fait systématiquement et qu'on accompagne, c'est de créer un comité de suivi citoyen. Donc c'est des citoyens qui s'impliquent concrètement pour voir est-ce que le projet correspond bien aux objectifs que l'on s'était fixés et comment est-ce qu'on peut ne pas faire que gueuler sur la communalité parce qu'elle ne l'a pas bien mené, mais comment est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut faire en sorte que d'autres acteurs s'approprient ce projet pour que finalement il y ait l'effet escompté.
L'expérience de la bataille contre le gaz de schiste a montré qu'on pouvait se battre depuis son territoire contre des forces extractivistes et gagner, même influer sur les politiques publiques. Est-ce qu'on peut se battre aussi avec son territoire? Autrement dit, est-ce que ce qui fait la spécificité d'une ville, d'un département, on peut s'en saisir comme un outil, comme une arme citoyenne pour développer des batailles?
C'est une question difficile et je pense que je renverrai la question à toute la salle et globalement à tous les gens qui sont ici à Alternativa parce que c'est une question fondamentale qu'il faut se poser et qui met en branle effectivement bien plus de choses que simplement l'importance de la crise écologique, la nécessité de se réapproprier ces enjeux-là, la nécessité de s'engager, mais qui met aussi en débat l'attachement au territoire, nos identités, notre rapport à notre culture, nos origines, toutes ces questions-là qui sont effectivement, et je partage ce que disait Jean-François tout à l'heure, à ne pas abandonner au Front National. C'est une question difficile parce qu'elle dépend d'exemples qu'on peut trouver, et il y a autant d'exemples peut-être sur lesquels on peut s'appuyer pour dire ça, et le Pays Basque en est un, très clairement. Aujourd'hui, de fait, sans se mentir, et je ne veux pas dénigrer l'ensemble des initiatives de monnaie complémentaire qui peuvent exister dans différents endroits de notre pays, mais la seule qui a atteint un niveau qui ne soit pas négligeable d'un point de vue économique, c'est-à-dire en termes de volume monétaire qui est utilisé, c'est le SCO. Et encore une fois, je ne dénigre aucunement les autres initiatives qui me semblent très pertinentes et très intéressantes, mais sur d'autres points de vue. Mais d'un point de vue économique, la seule qui aujourd'hui a un sens économique en termes de volume, c'est le SCO. Et donc du coup, s'appuyer sur son territoire pour essayer de construire un projet de transition, c'est possible, mais c'est également difficile. Je vais faire part d'une expérience qui est la mienne. Donc, je vous disais que je vais tailler entre Lyon et Saint-Étienne contre la construction d'une deuxième autoroute parallèle à l'autoroute existante, parce que l'autoroute existante ne serait pas assez moderne. Et donc nous allons certainement gagner contre ce projet d'autoroute. Et nous avons construit une mobilisation de type contre les autres grands projets inutiles, mais qui en fait a laissé penser qu'il existait un territoire unique bataillant de Lyon à Saint-Étienne contre ce projet d'autoroute. Et on est donc aujourd'hui confronté, puisque le projet est plus ou moins sur la voie de l'abandon, à l'idée de travailler sur les alternatives. Et des alternatives, des idées, on en a plein. Le problème, c'est qu'entre les faubourgs de Lyon et les faubourgs de Saint-Étienne, ben, les gens ne partagent pas la même vie. Ils ne partagent pas les mêmes attaches, ils ne partagent pas les mêmes façons d'utiliser les infrastructures qui leur sont offertes. Et donc, du coup, penser ce territoire comme un territoire unique ne fonctionne pas. Et donc, du coup, discuter des alternatives territoriales sur la base de la mobilisation qu'on a construite pour rejeter les autoroutes, c'est extrêmement difficile parce que on ne peut pas le penser l'alternative à l'échelle de ce territoire et que tout de suite ça met en branle soit des choses, des enjeux nationaux ou soit des enjeux infralocaux et qui rendent la difficulté de batailler à l'échelon de ce territoire qu'on avait pourtant théorisé et pensé comme étant uni dans la bataille contre le projet d'autoroute. De la même manière, la bataille contre les gaz de schiste, elle a fonctionné parce que elle a été finalement ça a été un ouragan citoyen qui a dépassé tous les clivages existants. On avait des gens de la FNSEA avec des agriculteurs de la conf, on avait des gens qui bataillaient pour protéger leur capacité à aller visiter les grottes souterraines à des écolos hippies installés depuis 40 ans en Ardèche, enfin, des entrepreneurs, des non-entrepreneurs, des. Enfin, ça a fonctionné là-dessus. Quand vient la question des alternatives, eh ben ça devient plus difficile parce qu'il y a plein de choses qui réémergent, plein de discussions, de divisions. On a même eu, contre les gaz de schiste, une alliance entre les gens qui bossent à EDF dans les centrales nucléaires le long de la vallée du Rhône et des écolos des plateaux qui, nécessairement, sur la question des alternatives, sont en train un peu de s'écharper et sont revenus un peu dans leur marché. Donc c'est pas simple, c'est pas évident, et en même temps, il en reste toujours quelque chose. Je ne sais plus où ça a été évoqué autour de ce week-end, mais effectivement, par exemple, il y a des projets de centrales photovoltaïques villageoises, il y a des projets de transition énergétique qui ont été montés sur la base de la mobilisation contre les gaz de schiste. Donc, du coup, moi, de mon point de vue, le fait d'utiliser son territoire, y compris de l'utiliser dans une perspective de construction de conflits sociaux, écologiques, démocratiques sur le territoire, est aussi une façon de créer de la polarisation et de la conflictualité qui peut être utile à la construction d'un projet territorial alternatif, y compris du point de vue de la transition écologique. Et ce, en le faisant, et je suis d'accord avec Jean-François, je vais arrêter, pour rebondir sur le rebond que tu faisais sur ma première intervention, je partage totalement la nécessité d'utiliser les interstices que nous laisse le système tel qu'il existe, le système capitaliste, le système néolibéral, le système technocratique dans lequel nous sommes, et ces interstices, ces failles, c'est les choses qu'ils n'ont pas complètement empêchées. Nous devons les utiliser pas simplement pour faire vivre des initiatives qui soient bien dans un territoire donné, mais comme des moyens de travailler les contradictions du système tel qu'il existe, comme des moyens d'essayer d'élargir ces failles-là, et comme un moyen de challenger le cœur du problème. Parce que je partage ton idée qu'on peut faire plein de choses à plein de niveaux territorial. J'ai moi-même travaillé à la région Île-de-France, et j'avais pour image de dire que c'est un immense paquebot pendant toute la journée en bataille pour le faire bouger, et en fait il est amarré au port, donc dans la nuit il revient. Et quand même beaucoup de collectivités territoriales sont ainsi, et il faudra effectivement s'appuyer sur des gens ou des équipes exceptionnelles qui font des boulots super intéressants. Et j'ai dit hier en terminant ma conférence que puissions-nous dans 5 ans avoir non pas un Los Angeles, un Grande Sainte, un Mont-en-Sortout et un Grenoble, mais en avoir 100, 200, 300, 400, et ça nous ferait clairement avancer dans cette bataille-là. Mais malheureusement, nous n'aurons pas 35 000 communes si nous ne changeons pas également le cadre réglementaire, le cadre économique, les lois telles qu'elles fonctionnent. Moi, je viens d'une petite commune, j'habite actuellement dans une petite commune, et cette petite commune, quand le parc régional du Pilat leur a proposé de mettre à disposition pour les gens qui habitent la commune des vélos électriques, le conseil municipal a décidé, non, on est trop loin des lieux de travail, donc pas de vélo électrique, les gens s'en serviront pas. Ben ouais, mais il y a des gens qui amènent aussi leurs enfants à l'école simplement, et un vélo électrique pour amener ses enfants à l'école, ça peut aussi participer à la construction d'une transition. Et donc du coup, pour ces communes-là, auxquelles il faut également penser, on peut très bien imaginer qu'on fasse une liste alternative citoyenne qui a une dynamique et qu'on prenne la mairie, mais aussi qu'à un moment donné, le cadre réglementaire permette à des communes de ce type-là d'être poussées au cul pour mener la transition, quand bien même elles ne seraient pas porteurs. Et donc du coup, oui, plongeons-nous dans les interstices, plongeons-nous dans les failles pour les travailler et à un moment donné qu'il y ait un basculement et que des réglementations différentes et alternatives nous permettent de mettre en œuvre la transition dans tous les territoires.
Je vais vous passer la parole. Alors, on a un petit souci de micro. On a perdu le micro baladeur qui est parti manquer de fil, donc il est en train d'être réparé. Donc, il va falloir intervenir en parlant fort. Je vous invite à être concis. La couche va circuler dans l'Assemblée pendant le même temps. Voilà, donc toujours destiné à permettre d'autofinancer l'événement qui est Alternativa. Qui commence? On a 1, 2, 3, 4, j'ai déjà 3 intervenants. Je vous laisse commencer, monsieur. Alors, vous pouvez venir, vous parlez fort. Qu'est-ce que...
Oui, Jacques Mortier, c'est bon. Un seigneur enthousiaste qui a beaucoup apprécié les interventions parce que depuis 60 ans, il est dans cette dimension. J'ai beaucoup apprécié et aussi j'ai proposé qu'il y ait une charte du devoir de l'humain qui permettrait de relier toutes les initiatives qui se font un peu partout parce qu'actuellement dans tous les cercles un petit peu avancés eh bien, il y a des initiatives de tous les côtés et mes amis Pierre Rabhi et Edgar Morin avec qui j'ai beaucoup travaillé approuvent tout à fait ce que j'explique et donc cette charte du devoir de l'humain se résume en un unique article. Chacun doit rendre de plus en plus humaines les diverses communautés qu'il habite ou fréquente, lui-même, famille, proximité, entreprise, association, parti, territoire. Voilà. Depuis 3 ans, je suis à fond là-dedans. J'étais engagé dans plein de domaines. Il y a 10 jours, j'étais à Centrale. J'ai fait Centrale de Paris et on faisait nos retrouvailles de 50 ans. Et donc, il y a eu une approbation de cette charte par la majorité des centrales. Voilà. Dans un mois, à Pau, en Nouvelle-Aquitaine, il y a pour la 6e fois 300 étudiants de grandes écoles qui viennent des polytechniciens, SUP, Sciences Po, etc. Et j'espère leur faire signer cette charte qui, à mes yeux, est la seule façon de relier une charte un peu générique qui englobe toutes les chartes. Voilà, voilà ce que je veux dire. C'est tout.
Merci.
Et attendez, les dernières secondes, ça m'intéresserait de savoir si il y a 150 personnes, si ce type de charte, ça vous paraîtrait être intéressant, une charte de l'humain. Voilà.
Une question posée en général aux intervenants. Il y avait 2 autres interventions, madame.
Ok, donc pas de réponse.
Non, on va répondre. Alors, j'ai oublié de la donner. On va apporter des réponses pour les interventions, elles peuvent venir. Et puis, il y aura des réponses apportées à la fin. On a des questions. Voilà,
il y a encore. Réponse de la salle, ça
m'intéresse. La question à propos de l'éolien. Est-ce que dans vos exemples, c'est exclusivement des parcs éoliens ou est-ce qu'on peut imaginer une autonomie avec des fermes qui auraient leur éolienne pour leurs besoins? Est-ce que ça, c'est envisageable ou pas en France aujourd'hui?
Deux questions, il y avait... Voilà.
Bonjour, Christine Lefebvre. Donc, c'est une question plutôt pour M. Cardon. En fait, c'est 2 questions. Je voudrais savoir quelle est la première initiative que vous avez prise en matière culturelle pour arriver à fédérer les gens et leur donner envie de participer. Et ensuite, comment vous faites cette fameuse implication participative, responsabilisation citoyenne? Parce qu'effectivement, je suis convaincue comme vous, c'est vraiment central. Merci.
Il y avait un monsieur qui voulait intervenir.
Oui. Du Quercy. Je trouve que les exposés qu'on vient d'avoir illustrent aussi, alors c'est pas pour critiquer, mais illustrent les blocages qu'il y a dans le développement de la transition énergétique et écologique. Et on a eu un témoignage d'un maire qui a trouvé, avec les gens de son coin, qui a réussi la réhabilitation, l'entraînement de la population, etc. Ça me fait penser, moi, ce que j'ai connu il y a 20 ans, la première communauté de communes française qui finalement a déclaré qu'elle voulait être 100% renouvelable, être autonome en matière énergétique, c'était dans le Lyonnais, la communauté de communes du Lyonnais. Et effectivement, ça rejoint parfaitement le témoignage de la commune du Nord-Pas-de-Calais. C'est-à-dire qu'en fait, le chemin pour arriver à mobiliser l'ensemble de la population, les leçons qui ont été tirées, c'est de dire qu'on ne peut pas faire de transition si la partie citoyenne est pleinement assumée, responsable, et non pas se réapproprier un projet, comme j'ai entendu. C'est pas se réapproprier, c'est porter le projet. Si la partie citoyenne n'est pas fondamentale. C'est ce que tu as dit, et c'est ce que moi j'avais vu dans le menu. Et donc la question qui apparaît, et je trouve que la table ronde l'a parfaitement illustré, alors là je suis critique, par finalement la critique de la technocratie des énergies renouvelables qui existe en France, hein, au travers de multiples organismes, de conférences.
Voilà. La question.
Oui, la question c'est, est-ce que c'est le peuple, la population qui est en retard par rapport aux élus? C'est une question qui a été abordée par le de bureau d'études. Je suis entièrement en désaccord avec Olivier. C'est-à-dire que moi, dans le Quercy à l'heure actuelle, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que la capacité à se saisir à la fois les questions alimentaires et énergétiques, elle est beaucoup plus forte dans la population de manière diffuse mais non organisée que chez les élus. Bon, alors je prends l'exemple.
On l'a pas compris, on va poser cette question. Non, non, c'est tout le monde qui s'intervenait. On a compris vos questions. Est-ce que,
oui, mais l'autre aspect, c'est aussi le divorce qui peut exister entre l'approche locale et les approches étatistes. Hein,
d'accord.
Et je pense qu'on
entend. On entend. Voilà. Vous avez une autre intervention qui vous demandait qui attend que repasser la parole à la tribu, quitte à ne pas donner le.
Oui, j'ai une question qui fait le lien un peu avec la désaffection des habitants sur les démarches sollicitées par les bureaux d'études ou les collectivités et sur le fait qui est plus avancé entre élus. Il y a quand même des élus qui sont en place depuis très longtemps, qui sont étatiques, qui sont européens. Ça s'appelle les évaluations environnementales des politiques publiques, que ce soit un plan climatologie, que ce soit un schéma d'urbanisme. Et ça existe depuis longtemps, et je trouve que, on a dit ça, notre énergie militante, elle pourrait être utilisée pour ces lieux qui sont cadrés dans des lois, mais qui sont désaffectés par les militants, par les habitants. Mais comme on dit, les outils, ils sont là. Et c'est des outils de politique publique, et personne ne les connaît. Sauf M. Caron, sans doute, et les bureaux d'études qui travaillent avec. Et c'est pas maintenant des études d'impact de projets qui sont finies, ce sont des évaluations où ce sont les habitants qui doivent venir à tes élus construire l'avenir de leur territoire. C'est votre travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'ils sont très, très méconnus par les militants, par les habitants. J'ai vu au niveau des banques, les gens ne savaient même pas que les banques ou les fonds européens ne savent pas à qui donner l'argent parce qu'il n'y a pas de projet en face. Souvent parce qu'il y a des élus qui bloquent aussi. Hein. Je n'ai pas dit que c'est la faute de nous. Hein. Mais il y a de l'argent qui a été disponible de moins en moins. Hein. Voilà, quelle est votre idée sur ces outils-là disponibles?
Merci, mais je vais repasser tout de suite la parole. On va faire une nouvelle volée d'intervention parce que ça va devenir très très difficile de répondre.
Dans les solutions méconnues qui sont jamais citées, il y a le quota carbone individualisé qui apparemment répondrait à tout ce que j'entends dans toutes les conférences où on se heurte à un mur de problématiques sans solution. Alors, effectivement, on peut signer les chartes, ça va dans le bon sens, mais le quota carbone individualisé, combien de personnes? C'est vraiment comment ça fonctionne ici dans la salle.
D'accord, on l'a entendu. On passe la parole.
Il y a vraiment un déficit parce que c'est vraiment une solution.
On a entendu la question.
C'est vraiment une solution qui résout tous les problèmes.
On a entendu la question, on passe la parole. Il y avait donc des fonds. Alors, l'idée de faire signer des chartes autour de nous, des chartes d'engagement, ça reprend un peu l'idée peut-être des défis qu'on a ici à Alternativa. La possibilité de développer des parcs éoliens, je ne sais plus exactement comment a été formulée la question.
Autonomie.
En autonomie, voilà, dans nos villes. On peut peut-être déjà répondre à cette question-là. Monsieur Caron.
Je préfère garder mon temps pour la question de monsieur.
Quand vous préférez
répondre
en
bref,
je vous laisse choisir les questions.
Alors,
répondez.
Non, je signe la charte. Même si tout le monde a signé la charte de Nicolas Hulot il y a 10 ans et tout, mais néanmoins, il faut le faire. Donc, je signe la charte. Mais vraiment. C'est parce que c'est quasi impossible de répondre là dans un exercice privé, vous comprenez, c'est difficile, mais bien sûr que ça va dans le bon sens, évidemment. La première implication culturelle, c'est vous qui avez posé la question. Voilà. En fait, on est parti du fait qu'on avait un déficit d'estime de soi monstrueux, s'excuser d'être mineur ou enfant mineur, etc., venu de toute l'Europe, d'Afrique du Nord, enfin bon, 29 nationalités qui ont fait le bassin minier, et que l'on estimait que la question c'était de reprendre pied avec notre mémoire collective. Donc c'est parti par la mémoire collective, on a fait les sons-lumières, on a fait les premiers récits de la trajectoire de la vie des gens, comment ils étaient arrivés chez nous, par quelles étapes, l'histoire des migrants, finalement. Et on l'a fait dans la fosse, avec les houillettes qui nous envoyaient la police, et nous on disait à la police, bah, venez, on va s'expliquer, parce que la fosse c'est à nous. Bon. Et donc il y a beaucoup de films qui ont travaillé cette question-là, au Pays de Galles et toute la reprise en main de par les prolétaires de leur petit travail. Bon, et donc c'est comme ça que ça a commencé, et après ça a déclenché sur beaucoup, beaucoup d'autres choses. Sur la question de l'implication, alors, il mériterait le week-end, mais en gros, si la posture n'est que de dire ce que je veux, mais en plus j'y ai droit puisque je paye mes impôts, on accentue la posture de consommation de l'action publique comme on consomme à Auchan. Paye mes impôts, donc j'ai droit. Dès qu'on est dans une salle, on voit bien qu'il y a 10 personnes qui disent des choses différentes, et que si on s'arrête là, il y en a 9 qui rentrent chez eux en disant « J'y suis allé, et en plus, ils n'ont même pas fait ce que je voulais. » Et donc, ça fait pire que nous. Donc, du coup, pour moi, tout doit être en processus de coproduction. C'est le passage d'une route, le tuyau de la telle profondeur, tout ça, ça ne se discute pas. Par contre, est-ce qu'on met ou pas une piste cyclable, des arbres, du stationnement, c'est de la coproduction. Pour qu'il y ait de la coproduction, il faut qu'il y ait du grain à moudre. Et il faut qu'il y ait des processus qui permettent l'expression de la parole à tout le monde. Enfin, c'est impossible de vous répondre en temps aussi court. Mais juste là-dessus, on a développé un outil qui fait un carton, c'est le 50-50. Droit à l'initiative des habitants, mais nous on ne peut pas tout faire puisque notre budget est très pauvre pour les raisons que je vous ai indiquées. Donc on ne fera des choses que suite à un processus d'élaboration au cours desquels les habitants font de la capacitation, c'est-à-dire de la montée en compréhension des enjeux, etc. D'ailleurs, je vais y revenir par rapport à la question. On a la population qu'on mérite. On a les élus qu'on mérite. Voilà. Et donc, quels sont les processus qui permettent aux gens de reprendre prise sur leur quotidien? Et à partir de là, effectivement, on signe une charte. Alors, le premier qui le plus banal, après 3 mois de réflexion, on fleurit un quartier excentré, on amène les jardinières, on met les fleurs au mois de mars, les habitants désherbent, arrosent. Sur ce sujet complètement banal, on a maintenant 50 50-50, on a refait les chemins agricoles, c'est les agriculteurs qui amènent les matériaux, nous on paye les matériaux, on loue le rouleau, et c'est eux qui le font, au lieu que ça nous coûte 100 000, ça nous a coûté 30 000 euros, et les agriculteurs, c'est bizarre, ils n'avouent plus les chemins, celui qui les refont eux-mêmes. Et on peut en citer comme ça plein, le 50-50, c'est extrêmement puissant. On a vu le doublement du nombre d'associations dans la ville. En gros, c'est des processus de reprise en main de son destin. Bon, je ne peux pas aller plus loin. Très vite, ce monsieur, est-ce que le peuple est en retard ou pas? Ouais, bah, j'ai dit, on a la population qu'on mérite, on a les élus. Je pense que c'est... moi, je dirais qu'il y a un mix entre vos deux interventions. C'est-à-dire que effectivement, les élus s'auto-limitent des peurs de ce que pourrait penser la population, et ils ne voient pas que la population est bien plus loin. Mais, en même temps, il y a dans le refus de l'éolien un NIMBY, enfin, le NIMBY est autre. C'est NIMBY, not in my backyard. Le NIMBY est devenu... c'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que... Je vais ouvrir un immense chapitre. La question de l'intérêt général... C'est comme si elle était traitée. Quand il y a eu l'après-guerre, il fallait tout reconstruire. La sécu, etc. Il y avait des grands dessins collectifs. Et aujourd'hui, avec l'État-providence, il y a beaucoup de docteurs qui ont travaillé là-dessus, Rosan Vallon, tout ça. Cette question, c'est comme si elle était traitée. Et du coup, chacun, il en a que pour sa gueule, pour son intérêt particulier. Et il y a quelque chose de ce registre-là, dans le quotidien. S'il n'interdit pas que les gens aient une pensée... Global, mais c'est comme si c'était traité par ailleurs. Vous les élus, traitez ça, vous, etc. Et donc, arriver à reconnecter ces deux questions d'intérêt particulier, je ne veux pas que ce soit chez moi, quoi que ce soit, c'est pas que les éoliennes, et la question d'intérêt général, reconnecter ça passe par des processus de remontée en compréhension des enjeux, etc. C'est pour ça que la question du climat est extrêmement intéressante. Parce qu'elle trouve des répercussions maintenant dans la vie quotidienne des gens et elle amène à se re-questionner sur des problématiques d'intérêt général. Et c'est pour ça que Nicolas Hulot, je trouve, a été génial dans son interview qui a été vue par un nombre de gens incroyable, c'est moi, les gens ont dit, mais tu sais, Jean-François, parce qu'évidemment, moi, je suis connu comme le loup blanc dans ma région sur les questions écologiques. En gros, c'est comme si moi, jusque-là, je m'occupais des questions écolo pendant que je continue leur vie, quoi. Et là, c'est, mais tu sais, je me dis, mais qu'est-ce que moi, je peux faire? Eh bien, j'entends ça depuis un mois, que je n'avais pas entendu avant. Et là, il y a un truc à faire fructifier, j'arrête.
Alors, sur ces différents sujets, premier point, ouais, juste pour retirer ce, parce que je pense que je me suis mal exprimé, j'ai pas forcément dit que les élus, que les citoyens étaient moins conscients des sujets que les élus, mais qu'ils l'exprimaient pas et qu'ils le montraient pas aux élus. Bon, après, ça, moi, ça me pose une question quand même peut-être plus philosophique, mais j'ai souvent l'impression qu'on crée une distinction claire et nette entre un élu et un citoyen, comme si un élu n'était plus un citoyen de son territoire. Et qui est comme si un citoyen ne pouvait plus devenir un élu de son territoire.
Merci.
Et le carbéry, c'est ça, reste des êtres humains qui ont tous les deux la même volonté, et leur volonté, a priori, c'est le meilleur pour leur territoire. Mais ils ont besoin, alors, je ne veux pas faire offense aux élus, mais certains des élus me disent, mais vous savez, il faut que les citoyens comprennent que nous, on est cons. On n'a pas le temps de s'instruire sur les sujets. Donc, on a besoin de citoyens qui nous disent quoi faire, en fait. Parce que c'est eux qui sont les premières sources de savoir sur ces sujets-là. Et c'est ça que je remettais en question. C'est le fait que quand ces élus s'adressent à l'ensemble des personnes qui habitent sur le territoire, et bien finalement, qui c'est qui va s'impliquer? C'est pas forcément les citoyens qui sont ce que vous dites, c'est-à-dire ceux qui sont conscients, ceux qui sont déjà moteurs de la transition. Mais ça doit être des gens qui sont réfractaires et qui n'ont pas envie que les choses progressent. Du coup, le message qui passe aux personnes qui vont être en charge de mener ces politiques publiques, il n'est pas bon. Mais par contre, quand on inverse ça, et quand on a des élus qui sont plus ou moins convaincus, qui sont équitables comme nous, et qui ont en face d'eux des personnes qui leur expliquent les difficultés qu'ils ont à faire du vélo, par exemple, dans la ville, parce qu'on n'a pas pensé que mettre un arrêt de bus au milieu d'une piste cyclable, ce n'était pas la meilleure façon de favoriser le fait de faire du vélo, ou ce genre de choses-là, et bien, ils entendent ces messages, et c'est comme ça qu'ensuite on crée des politiques qui soient favorables. Premier point. Deuxième point, alors il ne faudrait pas que je prenne la parole trop longtemps, mais je vais essayer de répondre très rapidement. La question des territoires qui sont 100% énergie renouvelable, c'est très bien. On était il n'y a pas très longtemps aux rencontres des TEPO, ces territoires à énergie positive, mais j'aimerais remettre ça en perspective. Viser 100% d'énergie renouvelable en 2050 pour un territoire rural, ce n'est pas suffisant. C'est une première étape, c'est bien pour se mobiliser, mais si on veut être autonome au niveau national en énergie, les grandes métropoles ne pourront pas produire 100% de leur énergie localement. Donc elles ont besoin qu'il y ait une sorte de contrat qui soit fait entre les territoires qui peuvent alimenter et les territoires qui vont consommer. Et du coup, on va avoir un basculement économique qui va être dans l'autre sens, c'est-à-dire des rentrées d'argent qui vont entrer dans ces territoires. Et je prends souvent le parallèle avec l'agriculture. Les territoires se sont pas dit, nous on produit 100% de l'alimentation qu'on consomme, et puis les Parisiens et puis les grandes métropoles, ils débrouillent pour consommer autrement. Non, il y a une certaine forme de péréquation qui s'établit. Pour l'énergie, finalement, c'est un peu la même chose. Alors sur le sujet du petit éolien, oui, c'est des projets qui existent. Alors déjà, généralement, quand on parle de projets de thermoliennes, c'est 3, 5, 8 éoliennes. C'est pas non plus 400 éoliennes qui sont mis quelque part. Mais en fait, il n'y a pas de bonne solution. Enfin, on ne peut pas donner une solution générale, et c'est souvent le problème, c'est que chaque territoire est différent, que les conditions en termes de vent sont différentes, qu'en fonction de la typologie du territoire, etc., on ne peut pas donner une réponse de est-ce que dans chaque ferme on pourrait installer une éolienne avec une partie de l'énergie en autoconsommation. Par contre, pour l'acceptabilité de ces projets, ça peut arriver qu'on passe par du petit éolien, parce que c'est beaucoup plus facile à accepter d'avoir des éoliennes de moins grande taille. Maintenant, quand on parle de petit éolien, on ne parle pas non plus de l'éolienne qu'on met sur le toit de sa maison, qui va arracher le toit et qui ne va pas produire d'énergie. Donc ça, c'est des sujets qu'il vaut mieux écarter. Et puis, je ne sais plus s'il y avait un autre sujet sur lequel il fallait que je réagisse. Sur les évaluations environnementales, alors les évaluations environnementales, c'est des outils qui sont très intéressants pour notamment ne pas se focaliser que sur la thématique énergétique, mais vraiment avoir la vision écologique, et là on est vraiment dans la transition écologique, hein, donc savoir quelles sont les approches des uns et des autres. Malheureusement, je ne suis pas le bon acteur pour en parler, et je ne sais pas comment faire, parce qu'en tant que bureau d'études, on a toujours tendance à faire des évaluations qui sont trop compliquées, donc y a plein de pages, on traite tous les sujets, donc ça nous aide à faire des orientations qui soient raisonnées, mais faire approprier ça par les citoyens, c'est compliqué parce que malgré tout, moi je le dis dans mon territoire en tant que citoyen, si je dois m'approprier une étude d'une centaine de pages pour comprendre où sont les enjeux, c'est pas possible. Donc, il faut une traduction, il faut des choses qui soient beaucoup plus simples à saisir. Et puis malgré tout, je pense que c'est l'approche technique ou émotionnelle ou autre. À un moment donné, il faut qu'on croie, il faut qu'on ait des récits, il faut qu'on ait des manières de vraiment se dire « ouais, je crois dans ça et je veux y aller » que d'avoir simplement des données, des quantités, des chiffres, etc. Et je vais faire un tout dernier mot. Là-dessus, c'était pour revenir sur la question de la charte du devoir de l'humain. Je suis très content que vous fassiez ça, monsieur, et que vous impliquiez les jeunes de l'école d'ingénieurs, notamment là-dessus. Moi, c'est un sujet que je porte par ailleurs au sein d'une association qui s'appelle Avenir Climatique. C'est de faire en sorte que les dirigeants, je vois qu'il y a des gens dans la salle, que les dirigeants de demain, qui sont ceux qui sortent des grandes écoles aujourd'hui, soient conscients de ces sujets-là, parce que nous, le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on nous forme à tout sauf à vivre dans le monde dans lequel on va vivre et qu'il faut se réapproprier ces sujets-là. Voilà. Donc, nous, on essaie de leur donner les billes en termes de comptabilité carbone pour qu'ils sachent que telle option ou telle action, ça n'a pas du tout le même impact.
Je vais vous demander, vous conjurer à chacun d'entre vous et à chacun d'entre nous de la modestie sur si on prend au sérieux la crise climatique, si on prend au sérieux la crise écologique dans laquelle nous sommes, si on prend au sérieux la crise démocratique, si on prend au sérieux les enjeux sociaux, si on prend au sérieux la transformation de la société qui devrait advenir au nom de tous ces enjeux-là, oublions le fait, les uns les autres, qu'il y a une solution miracle, une recette, une action, un engagement, une charte, un document, un qui permet de résoudre l'en ou un quota carbone individualisé, qui permet de résoudre l'ensemble des défis auxquels nous sommes confrontés. Toutes ces initiatives sont certainement importantes et peut-être que l'une d'entre elles va nous faire basculer dans autre chose. Aujourd'hui, personne ne le sait. Mais en tout cas, essayons d'éviter, dans les débats publics, de dire les uns les autres, vous, quand vous faites ça, finalement, vous êtes à côté de la plaque, la solution, c'est ça. Non, soyons toutes et tous modestes. Moi, je peux vous expliquer, comme je l'ai fait tout à l'heure, et pendant des heures, en quoi, si on ne désarme pas les marchés financiers, si on ne désarme pas les multinationales du pétrole, du charbon et du gaz, tout ce qu'on se raconte là n'a finalement peut-être que peu d'impact. Mais ce n'est pas mon rôle là de faire cela, et ce n'est pas parce que je vous aurais convaincu qu'il faut désarmer Total, que Total sera désarmé. Donc du coup, oui, multiplions les initiatives, soyons en mesure effectivement de nous engager là, de là où nous sommes, pour opérer la transition dont nous avons besoin. Et parce que nous sommes convaincus d'une idée, allons au bout de notre idée. Et moi je suis prêt à signer des chartes avant, et celle-ci peut-être qu'elle est 100 fois mieux que tout ce qu'on a pu signer depuis. Je n'ai pas de problème avec ça, mais sincèrement, si on prend au sérieux la crise climatique, si on prend au sérieux ce que Christophe Cassou ou les autres climatologues qui étaient là ce week-end nous ont redit en termes de ce que ça signifie de rester dans un monde en 1.5 en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais ayons la modestie de ne pas penser que nous avons la solution. La deuxième chose que je veux dire, c'est sur le rapport des citoyens aux élus, du peuple aux élus. Est-ce qu'on a les élus ou le peuple qu'on mérite? En disant par ailleurs que si je me suis fait effacer pour étant quelqu'un d'étatiste, j'ai dû rappeler un truc parce que je suis pour le fait qu'on démultiplie les initiatives à l'échelon territorial sans oublier par contre la nécessité de batailler sur les questions de réglementation nationale et internationale. J'ai eu l'occasion il y a une dizaine d'années de faire un voyage en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, absolument pas climato-compatible ce voyage par ailleurs, mais notamment à la rencontre des alternatives face au réchauffement climatique. On était juste après l'échec de la conférence de Copenhague et j'avais un projet de ce type-là pour aller à la rencontre. Des initiatives intéressantes. Et j'ai rencontré des dizaines d'initiatives d'agriculture urbaine. De Détroit, où j'ai passé un mois, où il y avait des initiatives d'agriculture urbaine de gens qui avaient simplement besoin d'agriculture urbaine pour survivre. Et quand je les ai interrogés sur « Ok, vous allez survivre, vous faites revivre un quartier, c'est formidable. Mais du coup, comment vous challengez la Maison Blanche ?» Et ces gens me disaient « Bah non. » C'est pas mon job, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. De toute façon, c'est tout pourri, je veux simplement m'en sauver moi-même. Et je leur en veux pas, les gens, ils avaient rien pour vivre. Les supermarchés sont à 15 bornes du centre-ville de Détroit, s'ils font pas ça, ils n'ont plus rien pour vivre. Et d'autres initiatives d'agriculture urbaine, plus bobo, plus. Voilà. la seule initiative que j'ai trouvée vraiment dynamisante et capable de transformer durablement une ville dans son ensemble, c'était Rosario en Argentine. Parce que Rosario en Argentine, au lendemain de la crise financière qui touche l'Argentine 99-2000-2001, effectivement, Rosario, ils n'ont plus rien à bouffer. Ils font du soja pour la terre entière, mais ils n'avaient plus rien à bouffer dans la ville. Et donc les mecs se sont effectivement mis, les mecs, les femmes, les gens, les habitants de Rosario, se sont mis à récupérer les jardins, les parcs des jardins de Rosario. Et là, la collectivité, plutôt que d'être dans une perspective de « je vais essayer de copter ce qui se passe sur le terrain », ou dans une perspective « je vais combattre ce qui se passe sur le terrain », s'est mis à la disposition de ces initiatives citoyennes. Et il en est né quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas où ça en est 10 ans après, mais en 2010, il y avait 30 000 ou 40 000 personnes qui vivaient directement ou indirectement de ces initiatives d'agriculture urbaine. Ils avaient créé des circuits courts, de la transformation, ils avaient créé des marchés locaux, ils avaient créé des produits maintenant qui étaient exportés, vendus ailleurs en Argentine, notamment à Buenos Aires. Mais ça, ça a été possible effectivement parce qu'à un moment donné, ni les citoyens qui avaient une démarche citoyenne étaient rétifs à l'accompagnement et au soutien d'une collectivité territoriale, mais également une collectivité territoriale qui ne s'est pas appuyée sur une initiative citoyenne simplement pour se faire réélire la fois d'après ou simplement l'instrumentaliser et tout cela. Et ça, je vous assure, c'est extrêmement rare. Et donc du coup, la question, ce n'est pas de savoir si on a les peuples ou les élus qu'on mérite, c'est d'essayer de recréer ces conditions-là. Et de recréer ces conditions-là, c'est difficile, c'est extrêmement ambitieux comme projet. Mais c'est ce que nous pouvons essayer de faire à travers l'idée que je redonne une nouvelle fois ici, c'est qu'il y a 5 ans, on était réunis à Alternativa, et la déclaration finale disait « Nous allons créer 10, 100, 1000 Alternativa pour donner à voir les alternatives que nous faisons vivre et les résistances que nous avons localement. » Ça a permis un jour, en un lieu, de faire des Alternativa un peu partout ou à travers les tours, et de montrer ça. Il faut qu'on passe un seuil, il faut qu'on passe à l'échelon supérieure. Et donc, c'est un peu ce qu'il y a dans la déclaration qui va être rendue publique tout à l'heure, dans le manifeste d'Alternativa de cette fois-ci, qui dit « Nous avons besoin de 10, 100, 1000 projets territoriaux alternatifs. » Et donc, toutes et tous, avec la modestie qui s'impose, retrouvons-nous sur nos territoires, pas simplement pour faire des Alternativa, mais pour construire des projets territoriaux alternatifs, que ce soit à l'échelon d'un quartier, à l'échelon d'une ville, d'une commune, d'une région, peu importe. Mais c'est de ça dont nous avons besoin, et que demain, nous puissions avoir non pas un Los Angeles, un Moinsartou, un Grand Sainte, et un Grenoble, et un tout ce que vous voulez, mais qu'il y en ait des appels, et qu'on soit en mesure de durablement infléchir le rapport de force en notre faveur, et de pouvoir être en mesure de changer également les réglementations nationales et internationales qui, aujourd'hui, empêchent de généraliser la transition.
De ce table ronde, justement, t'en parlais, c'est de se faire une ou deux propositions concrètes d'action pour alimenter le programme dont tu parlais, pour alimenter ces territoires alternatifs. Est-ce que vous pouvez vous en donner une ou deux qu'on viendrait ajouter au panier les programmes d'action?
Alors, moi je dirais qu'un sujet qui a été abordé mais pas traité, c'est la question du récit. Il nous manque un récit de la transformation comme il nous manque un Gandhi. C'est-à-dire que la Bible a transformé le monde, qu'on soit pour ou contre, ce n'est pas le sujet, mais c'est un récit construit et qui a mis en place quelque chose qui a transformé. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Bon. Donc je mets ça en tête, la question du récit, qui n'est pas l'écriture d'un bouquin, hein, c'est un peu plus complexe, c'est une question importante. Et deuxièmement, je pense qu'il y a à réarticuler deux choses. La première, c'est l'individuel et le collectif. Si on ne bouge pas individuellement, s'il n'y a pas des engagements personnels, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas s'il n'y a pas un cadre collectif. Parce que sinon, c'est du sacrificiel et ça ne marche pas. Et la deuxième réarticulation, c'est ce que tu nous as dit, ben, ce que j'ai dit et tu as dit, et du coup, c'est la synthèse, c'est le local global. Le global ne bougera que parce qu'il y a des réponses locales qui ouvrent des perspectives. Mais le global, le local sera étouffé et restera marginal s'il n'y a pas un cadre global. Et ces articulations-là, il ne faut pas compenser l'un ou l'autre, c'est la façon dont elles se parlent et se combinent qui fait que ça fait système. Moi, le sujet, c'est comment ça fait système.
Ben, au vu de l'échange qu'on a, ce que j'ai envie de proposer, c'est que chacune et chacun d'entre nous, on aille voir nos élus et qu'on dise qu'on a envie de bosser ensemble, que la transition écologique, la transition sociale, c'est un sujet qui nous intéresse, qu'on reste force de proposition et qu'on a un intérêt à ce que ce soit l'un des sujets qui soit traité en priorité et pas simplement mis au fond d'un tiroir une fois qu'on a fait un beau plan et un beau schéma.
Je ne sais pas, mais dans cette logique-là, issue des discussions qu'on a depuis la marche du 8 septembre, un certain nombre d'organisations proposent, et je pense que ça peut être une très très bonne idée, et qu'on ne le fasse pas simplement individuellement, mais qu'on le fasse collectivement, qu'on utilise le rapport du GIEC, qui est publié là, 1.2.5, et qu'effectivement on aille challenger, pas simplement les discuter, aller aux élus, leur dire on veut bosser avec vous sur la transition écologique et sociale. S'ils sont prêts à faire ça, ok, mais les challenger aussi. C'est-à-dire que moi je ne suis pas rétif à l'idée qu'il y ait du conflit sur mon territoire avec ma commune et que j'aille les voir, que nous allions les voir dans un cadre collectif, individuel et collectif, en leur disant voilà, ce rapport-là, il dit clairement comment on fait pour rester dans un cadre de 1.5. Vous avez toute une série de politiques publiques qui peuvent être prises dans ce cadre-là. Et il y en a toute une série d'autres qui sont incompatibles avec cet objectif d'un degré et demi. Et donc, soit vous restez dans le cadre, soit vous faites partie du monde 1.5, soit vous construisez le monde 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés, et vous êtes des criminels du climat, des criminels de notre pérennité à survivre de manière honorable sur cette planète, et dans ce cas-là, nous vous combattrons. Et donc, du coup, d'être en mesure de dire les deux. On est prêt, effectivement, à travailler et à mettre en place les transitions qui nous permettent de rester dans le 1,5 degré. Mais par contre, tout ce qui n'est pas 1,5 degré compatible doit être combattu pied par pied. Merci.